coup, l'éternité de Dieu, l'amour de Dieu, son omnipotence, sa toute-puissance, son omniprésence. Et bien souvent, quand on lit la Bible, je ne sais pas si ça vous arrive, vous, certains passages nous paraissent en décalage avec ce que nous pouvons vivre, ce qui est normal. Parce que l'histoire biblique se déroule dans un monde qui est complètement différent du nôtre, avec des peuples primitifs différents du nôtre. Si vous lisez un peu votre Bible, vous verrez que les manières de faire, d'agir, n'ont rien à voir avec la société française de 2024. Strictement rien à voir. Donc à part qu'ils ont la même tête, deux bras et deux jambes, il n'y a pas grand-chose en commun. Ce qui fait que quand nous lisons la parole de Dieu, on a l'impression d'être fois qu'il y a une distance qui est là. Et pourtant, il y a quelque chose de plus. On voit dans ce monde biblique un Dieu qui tisse des relations très particulières avec des hommes en particulier, comme Abraham, Moïse, qui parlait directement à Dieu, David. Et dans ce monde, nous voyons même des prophètes, des petits prophètes et des grands prophètes, annoncer, dénoncer l'idolâtrie du peuple, menacer de jugement divin ceux qui se livrent au péché. Et on voit dans le début de l'Église des chrétiens qui partageaient tout ce qu'ils possédaient en mettant leurs biens en commun. Et bien souvent, quand on lit tout cela, on peut être là à lire tous ces passages et rester spectateur quelque part, en se disant, c'est vrai, il fut une époque où Dieu fit toutes ces choses pour les peuples concernés, cela devait être merveilleux pour eux à vivre, mais en quoi cela me concerne maintenant? Qu'est-ce qui fait que ce que je lis dans la parole me concerne aujourd'hui? Quel est le lien finalement qu'il y a entre moi, chrétien de 2024, ou même dans le futur, et finalement cette parole de Dieu? Parce que nous ne vivons pas dans le même monde. Est-ce que ça vous est déjà arrivé déjà de penser comme ça en lisant la parole de Dieu? Oui, ça arrive. Si ça vous arrive pas, lisez bien toute la Bible, ne sélectionnez pas des passages, et vous verrez que des fois on se dit, c'est intéressant, mais pour nous, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui? D'ailleurs, ceux qui connaissent pas le Seigneur, la plupart des fois, peuvent penser comme cela, en disant, la Bible est un livre dépassé. Je l'entendais cette semaine, quelqu'un qui me parlait comme ça, est un livre dépassé qui s'adressait à des cultures, des peuples et des situations qui n'ont rien à voir avec nous. Et cette phrase-là, elle est pas fausse, hein. Elle est vraie. Parce que du coup, alors, elle est fausse dans le sens que la Bible est un livre dépassé, ça c'est faux. Mais sur ce qui est dit derrière, que du coup, voilà, il y a finalement beaucoup de décalage avec nous, ça c'est vrai. Mais si on prend les critères qui sont finalement géographiques, culturel, historique, c'est vrai. Il n'y a pas de lien qu'on peut faire entre nous et eux. Et du coup, quel est le lien qui nous unit à tous ces différents passages de la Bible? Est-ce que vous avez une idée? La parole ne change pas, oui, c'est vrai. Ça, on peut le dire. Mais on pourrait répondre à cela que, oui, d'accord, elle ne change pas, mais quand même. Du coup, comment on va en vivre tous les passages que l'on peut voir et nous? Ouais, les humains sont toujours les mêmes, quelque part au fond, c'est vrai. Mais il y a une réponse beaucoup plus simple. Le lien qu'il y a entre cette parole de Dieu, la Bible, et nous, c'est Dieu lui-même. Et c'est un des attributs qu'on va voir ce matin, c'est que précisément, on a un Dieu qui ne change pas. Les hommes changent, la culture change, même si dans le fond, on va voir que le cœur des hommes, des fois, il reste un peu le même. Mais malgré des cultures différentes, qui datent d'il y a 2000 ans, des manières de faire différentes, il y a un lien qui unit nous, chrétiens de 2024, et ces personnes d'il y a 2000, 3000 ans, c'est ce Dieu qui, lui, n'a pas changé. Le Dieu qui a parlé à Abraham, Moïse, David, c'est le même, exactement le même que l'on a aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous propose du coup de plonger dans cet attribut de Dieu, parce que c'est un attribut, un Dieu immuable, on appelle ce terme, sinon l'immutabilité, la permanence de Dieu, Dieu qui finalement ne bouge pas dans ses promesses, dans ses principes de diriger, dans ses projets, dans ses émotions, dans son action, dans tout ce qu'il est. Dieu ne change pas. Ça va? Du coup, j'ai intitulé ce message « Un Dieu qui ne change pas » et actif, et on va voir du coup pourquoi je précise actif. Donc, et je vous propose de commencer par voir qu'est-ce que ça veut dire un Dieu qui ne change pas, avant de soulever une question quand même, parce que on peut s'apercevoir des fois dans la parole que on a l'impression des fois que Dieu change. Je propose du coup de voir la vie et la personnalité de Dieu pour commencer, et cette vie et cette personnalité de Dieu qui ne change pas. J'ai mis deux textes, il y en a beaucoup plus, mais j'en ai mis deux dans Malachie, chapitre 3, verset 6, et dans Jacques, chapitre 1, verset 17. « Moi, je suis l'Éternel, et je n'ai pas changé. » Bon, ça a le mérite d'être clair. Et Jacques, chapitre 1, verset 17, « Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. » Dieu ne change pas d'un cil. Malgré ce que les hommes, nous pouvons vivre, lui ne change pas. Dans sa nature déjà, dans sa vie, nous avons vu au début de cette série que Dieu est éternel. Et d'ailleurs, chaque attribut n'est pas séparé les uns des autres. Le fait qu'il ne change pas va avec son éternité. Il n'a ni commencement ni fin, et au-delà de cela, il n'y a dans sa vie ni période de croissance ni déclin, comme nous. Nous, on grandit, et puis malheureusement, à un moment, on est sur le déclin, c'est comme ça. Mais Dieu n'a pas de changement. Parce que qui dit changement dit soit on change positivement, soit négativement. Dieu ne change pas. Il ne grandit pas, il ne décroît pas, il n'acquiert pas de nouveaux pouvoirs, il se dit pas, tiens, aujourd'hui, c'est pas comme les Pokémon, là, je sais pas quoi, tiens, j'ai découvert un truc, je peux faire ça aujourd'hui. Non, non. Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Il ne devient pas plus fort qu'il ne l'était il y a 2000 ans, ni plus faible, ce qu'on peut des fois croire. Il n'est pas plus sage avec le temps, et ça, pour nous, en général, nous, êtres humains, on devient plus sage, normalement, hein, avec le temps. Mais Dieu n'est pas comme cela, puisqu'il est en dehors du temps. On l'a vu sur l'omniprésence et l'omnipotence. Il ne peut devenir meilleur, car il est déjà parfait. Du coup, en lui, finalement, Dieu opère des changements dans l'univers, dans sa création, mais lui reste toujours le même. C'est le premier point dans son être. Dieu ne change pas. Puis dans sa personnalité. Nous, êtres humains, il suffit d'un surménage, d'un choc, d'un accident pour changer le caractère d'un homme. Et peut-être que vous connaissez des hommes ou des femmes qui ont changé d'idée, qui ont changé de goût durant leur vie. C'est pas forcément mauvais. Hein. Des fois c'est positif, des fois c'est négatif. Un homme aimable peut devenir violent, un homme courageux peut devenir lâche ou dur, et inversement. Mais rien de semblable ne peut arriver à Dieu, rien n'altère la personnalité de Dieu. Il ne devient jamais moins fidèle, ça on peut le penser, il ne devient jamais moins miséricordieux, moins juste, moins bon qu'il ne l'a été. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est inversé, hein. Ce qui nous différencie d'ailleurs, nous créatures, avec Dieu, qui est le Créateur, c'est que nous changeons. Et du coup, parce que nous changeons, nous pouvons des fois penser que Dieu change. Même si on dit que Dieu ne change pas, des fois dans notre inconscient, on croit que Dieu peut changer. En fonction de ce que nous faisons, Dieu du coup peut changer sa manière de faire. Mais Dieu ne change en rien dans sa personnalité. Contrairement à nous qui changeons nos vies physiquement aussi, nous pouvons changer dans nos caractères. Dans tout ce que finalement nous sommes changeants, contrairement à Dieu. Alors j'ai mis une citation d'un anglais, d'un théologien anglais, Herman Bavinck, qui va écrire ceci, que je trouve très juste, sur l'immuabilité de Dieu. Il va dire « La doctrine de l'immuabilité, ça veut dire la doctrine du fait que Dieu ne change pas, est de la plus haute importance pour notre foi. Elle marque la différence entre le Créateur et la créature, ce que des fois, bien souvent, on mélange. On pense que Dieu, c'est notre pote, alors qu'il y a quand même une distinction qui est quand même marquée. Toute créature est continuellement en devenir, et nous sommes en devenir. Elle est changeante, lutte en permanence, cherche le repos et la satisfaction, et trouve ce repos en Dieu, car lui seul n'est pas en devenir. C'est pourquoi dans la Bible, Dieu est souvent appelé le rocher, d'ailleurs le rocher des siècles. Ce n'est pas pour rien, parce qu'il est ce rocher qui ne bouge pas. Ça va ? La vie et la personnalité de Dieu qui ne changent pas. Et puis ensuite, on va voir qu'il y a la vérité de Dieu qui ne change pas. Ça, c'est important. Nos paroles, elles sont aussi changeantes. Il arrive aux hommes de dire des choses qu'ils ne pensent pas ou de changer d'avis par rapport à ce qui a été dit, de revenir sur nos paroles parce que la situation a changé, peu importe. Beaucoup de fois, on peut changer nos paroles. Égard à celui qui se réfugie dans la parole des hommes, d'ailleurs, puisque nos paroles ne sont pas fiables. La parole de Dieu, elle est l'expression de sa pensée. Aucune circonstance ne le pousse à revenir sur les paroles qu'il a prononcées. Aucun changement ne le force à se rectifier. C'est Ésaïe, le prophète Ésaïe, qui va dire ceci. Ésaïe 40, verset 6. Vraiment, je crois que je l'ai pas mis. Vraiment, le peuple est de l'herbe. Et l'herbe se dessèche. La fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Quand nous lisons nos Bibles, du coup, nous devons nous souvenir que Dieu est celui qui tient ses promesses, ses engagements et ses avertissements. Pas que dans l'aspect positif, hein, du coup. Même dans son châtiment, dans ses engagements, dans ses avertissements, Dieu va tenir aussi ses promesses. Quand le peuple d'Israël va faire n'importe quoi, Dieu va être patient. Très patient. Mais il y a un moment, il va leur dire, si vous continuez sur cette voie, je vais vous détruire. Et c'est ce qu'il va faire par deux fois. En déportant le peuple. Et en détruisant, du coup, Jérusalem. Et puis le troisième point, c'est les voies de Dieu ne changent pas. Et puis là, on va rentrer dans un sujet qui devient un peu flou. Et c'est bien de préciser ce matin. Mais voilà, c'est bien de le marquer quand même. Les voies de Dieu ne changent pas. Ça veut dire que ses projets ne changent pas. Nombre verset 23, verset, chapitre 23, verset 19. J'ai mis deux textes, pareil, il y en a plusieurs. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un être humain pour avoir du regret. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne le réalisera-t-il pas? Et d'ailleurs, ce passage, il est présent dans plein de chapitres de livres de la Bible. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ésaïe chapitre 46, « Dès le commencement, j'annonce l'avenir et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore. C'est moi qui dis et mon dessein s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. » Quand Dieu décide quelque chose, son projet est immuable. Il ne change pas. Et il sera exécuté. Personne, du coup, n'est comme lui à cet égard. Dieu tient ses engagements. Il ne change pas dans ses promesses. Quand il promet quelque chose, il se montre fidèle à ses promesses. D'ailleurs, c'est le cas dans le plan du salut. Il va promettre, du coup, que dès le début de la Genèse, que quelqu'un viendra pour sauver les hommes pécheurs. Et c'est dans Hébreux 13 qu'on trouve ce passage. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et du coup, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Parce que lui ne change pas. Et lui ne change jamais. C'est pour nous une consolation, chrétiens. Et c'est aussi une consolation parce que Dieu a promis, et c'est une promesse que nous attendons, qu'il reviendra chercher ceux qui lui appartiennent. Et qu'il reviendra juger ceux qui n'ont pas mis leur foi en lui. Cette promesse, et cet avertissement en même temps, est celle d'un Dieu qui ne change pas. Est-ce que ça va? Donc là, c'est le côté, normalement, on est tous OK, voilà. Donc, alors, si vous découvrez, c'est bien, hein. Comme ça, vous savez que Dieu ne change pas. Mais, en même temps, on a plusieurs passages dans la Bible qui semblent montrer que Dieu change. Pas qu'un, beaucoup de passages. Et je vais citer, bon, allez, deux exemples, mais je pourrais en citer plus. Premier exemple, c'est le peuple qui va être d'Israël qui va être infidèle au Seigneur. Ils sont dans le désert, au mont Sinaï. Moïse va monter sur la montagne pour les tablettes de la loi, les 10 commandements. Qu'est-ce que le peuple va faire? Est-ce que vous vous rappelez? Ouais, ils vont faire le veau d'or. Ils vont se dresser une idole, du coup en désobéissance à Dieu, et ils vont adorer le veau d'or. Le Seigneur, du coup, va vouloir les exterminer. C'est le terme qui est employé, hein. Il est dit que Dieu va vouloir les exterminer, Moïse va prier, et il est dit ceci dans Exode chapitre 32, verset 14. « Alors le Seigneur renonça au mal qu'il avait parlé de faire à son peuple. » Et là, on peut se dire, « Ah bah bon, il a dit qu'il ne change pas, deux minutes après, il a changé d'avis. » Comment comprendre tout cela? Alors on pourrait dire, il n'y a que ce passage. Non, non, il n'y a pas que ce passage, il y en a beaucoup. Où finalement, il est dit que Dieu se repent, c'est le terme qui est employé. Dieu se repent, Dieu finalement change ici, alors non, il ne change pas d'avis, c'est mal là, je paraphrase. On a l'impression qu'il change d'avis, du coup comment comprendre ce passage? Un autre passage, c'est avec Noé, les hommes vont être mauvais, tout au début de la Genèse, et Dieu va dire, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et vous connaissez la suite. Dieu va finalement sauver Noé, il va pas exterminer finalement tout le monde. Voilà, on a l'impression que Dieu change d'avis là. Alors du coup, je vous pose la question, Dieu change-t-il parfois d'avis? Est-ce que dans le contrat, il y a des petites lignes en bas? Je ne change pas, mais attention, il y a plein de lignes, il y a plein de situations où je peux changer. Comment expliquer cette contradiction qui est apparente? Alors c'est bien de rester sur les acquis, il faut bien rester sur le chose que Dieu reste fidèle à lui-même et à ses attributs. Dieu est le péché. En aimant la justice, il est prêt à juger selon ses avertissements et à pardonner selon ses promesses. Mais bien souvent, on fait une confusion entre deux termes, entre un Dieu qui ne change pas avec un Dieu immobile. Ce n'est pas la même chose. Dieu ne change pas, ça ne veut pas dire qu'il est immobile, qu'il est figé. Dieu est un Dieu actif. Et ça ne veut pas dire que du coup il change. Il est actif. Dieu ne change pas, c'est ce qu'il est. Ça ne veut pas dire qu'il est immobile, comme s'il n'y avait aucun mouvement en Dieu. Nous avons un Dieu qui est toujours en action, qui est d'ailleurs vivant, c'est le terme. Il n'est pas figé dans ses émotions, dans ses sentiments et dans ses actions. La Bible nous enseigne d'ailleurs qu'il est en communication avec les hommes. Dieu n'est pas un Dieu qui est resté dans son coin et qui a établi des règles et qui ne bouge plus. Et la confusion qui est faite ici, c'est entre l'immobilisme et l'immuabilité, le fait que Dieu ne change pas. Mais il y a une nuance, alors je vais l'expliquer, hein. On va y arriver. Dieu fait finalement et a une relation avec nous les êtres humains. D'ailleurs, on a l'impression des fois que Dieu fait comme s'il vivait avec nous. Il est en relation avec nous. Et dans ces changements, avec les êtres humains, bah forcément nous, êtres humains, nous changeons. Et du coup, les relations avec Dieu changent. Mais il n'y a aucun changement dans son être, dans ses projets, dans ses promesses. Quand la Bible nous dit que Dieu se repent, ce n'est qu'une humanisation de l'action de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu se repent comme nous, on se repent. Je prends un exemple. Dans la Bible, il y a d'autres passages d'ailleurs qui prennent, et là ça nous choque moins. Pour expliquer la manière d'agir de Dieu, bien souvent la Bible, elle humanise ce que Dieu est. Ça ne veut pas dire que Dieu, du coup, est comme ça. Dans ses sentiments, dans ses pensées, dans ses actes, des fois Dieu est présenté comme un homme. Il se repent ou regrette, là on vient de le voir. Il se rappelle, comme si Dieu avait oublié. Il regarde, il descend. D'ailleurs sur le passage de Vaudor, Dieu va descendre, comme si il a des pieds, des mains. Il pose sa main sur ceux qui se tournent vers lui. C'est des termes qui sont présents dans la Bible. Pourtant, Dieu n'a pas de main. Il n'a pas de yeux, il n'a pas de pieds pour descendre. La Bible ici humanise pour que nous puissions comprendre Dieu, pour que nous puissions saisir ce qu'il est, ce qu'il fait. Est-ce que ça va? Donc quand il s'agit de dire que Dieu se repent, ce n'est pas à prendre comme nous le pensons, comme nous le faisons. Parce que sinon, on prend tout au pied de la lettre. Hein. Dieu pose sa main, donc on cherche sa main, elle est où? Dieu descend. Et ici, c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphologie. Donc en fait, Dieu ici, à travers sa parole, il s'adapte à nous pour qu'on puisse le comprendre. Alors comment traduire ce terme « se repentir » qui est quand même présent? Quand on dit « Dieu nous voit », on comprend. Quand on dit « Dieu pose sa main », on sait que du coup, il est avec nous, qu'il a sa faveur envers nous. Et comment comprendre, comment traduire le terme « se repentir » alors? Alors, je vais pas vous faire de l'hébreu, je vais essayer de simplifier au maximum. Le terme hébreu ici signifie une respiration profonde, causée par soit un soulagement, soit par une douleur. Et quelque part ici, c'est Dieu ressent de tout son cœur le fait de punir ou de bénir. La première fois d'ailleurs que ce mot apparaît dans la Bible, c'est dans la Genèse, avec Noé. Alors l'Éternel se repentit, d'ailleurs d'autres traductions, d'ailleurs dans vos Bibles, hein, ça sera sans doute ça, la traduction c'est pas Dieu se repentit, c'est Dieu fut peiné, qui se rapproche plus d'ailleurs du terme hébreu. Dieu fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre. Parce que nous avons un Dieu qui a des émotions. Et cela ne veut pas dire qu'il change. D'ailleurs le verset dit, alors l'Éternel se repentit ou fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre, et il en eut le cœur très affligé. En réalité, le changement n'est pas en Dieu, mais dans l'homme. et ses relations à Dieu. Lorsque Israël se trouvait au pied de la montagne en train d'adorer une idole, Dieu va dire à Moïse que sa colère était contre le peuple, qui veut les tuer. Moïse va intercéder pour le peuple. Et parce que Moïse va intercéder, les circonstances sont différentes. Les circonstances changent. Et l'attitude de Dieu envers le péché, c'est toujours la colère. Et tous les hommes sans Dieu sont sous la colère de Dieu, comme le peuple d'Israël avec le veau d'or. Mais son attitude envers ceux qui font appel à lui est toujours la miséricorde. Ça, c'est ce que Dieu est. Et ça, ça ne change pas. Dieu ne change pas, du coup, même dans l'histoire du veau d'or. Par contre, la situation des hommes change, parce que Dieu fait appel il fait appel au Seigneur en disant « Aie pitié ». Le Seigneur entend ce cri. Et Dieu est un Dieu de miséricorde. D'ailleurs, il sait que le peuple ici n'est pas perdu pour toujours. Il y a d'autres exemples dans la Bible où Dieu sait, par exemple, avec Saül, qui va vouloir faire un peu la même chose, Dieu ne va pas... Non, il va le punir, il va lui dire « Tu vas mourir ». Parce que son cœur n'est pas dans la repentance. La situation n'a pas changé. Est-ce que ça va? C'est un peu plus clair? Alors il y a un passage biblique qui confirme tout cela. C'est dans Jérémie 18, chapitre 18, versets 7 à 10. Une fois, c'est Dieu qui parle, « Une fois je décrète de déraciner une nation ou un royaume, de le renverser et d'amener sa ruine. Mais si cette nation que j'ai menacée cesse de mal agir, je renoncerai à lui envoyer le malheur que j'avais projeté contre elle. Et si par contre je parle de construire et de planter telle nation ou tel royaume, et que cette nation fait ce que je considère comme mal et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais promis de lui faire. » Est-ce que Dieu ici change d'avis? Non, Dieu ici présente ce qu'il est. Face au péché, c'est la colère de Dieu qui repose sur tous les hommes. Et face à la repentance des hommes, eh ben Dieu est miséricorde. C'est le Dieu que nous avons. Et ça, il ne change pas dans cela. Et dans tous les passages de la Bible où il est question d'ailleurs de Dieu repent, en fait, c'est Dieu qui est peiné, qui souffle, parce qu'il est peiné de voir sa création faire mal. Dieu, quelque part, se repent quand les hommes changent. Alors le thème « repentir », finalement, il n'est pas bien placé. Hein. C'est plutôt « il fut peiné ». Et quelque part, Dieu ici ne change pas dans ce qu'il est, dans sa nature. Il s'adapte en fonction de ce que les hommes font de lui. Ça va? Dans la Bible, du coup, il est évident que les promesses et les avertissements sont toujours conditionnés par la réponse de l'homme. Dieu ne change pas, mais nous changeons. Et trop bien souvent, nous changeons. Mais n'oublions pas que dans nos changements, Dieu reste lui constant. Si nous nous éloignons de lui, si nous péchons devant Dieu, c'est sa colère qui repose sur nous. Et si nous lui faisons confiance, si nous avons une attitude d'humilité de cœur, c'est sa grâce qui repose sur nous. Ça, c'est le message de l'Évangile. On ne peut pas l'enlever, on ne peut pas l'amoindrir. Amoindrir le péché, ce serait amoindrir la croix. Et finalement, ce que Dieu est. Et pour réaliser pleinement la grâce de Dieu, il faut parler du péché. Et que pour le péché, tous les hommes sont sous la colère de Dieu. Et ça, ça ne change pas en fonction des gens. Si vous êtes président de la République ou je sais pas quoi, vous êtes sous la colère de Dieu. Ceux qui peuvent échapper à la colère de Dieu, c'est à travers le sacrifice du Christ. Ceux qui mettent leur foi en lui ne seront jamais déçus. Et du coup, l'amour de Dieu, qui est offert à tous les hommes, se réalise dans le cœur de ceux, finalement, qui l'acceptent. Et l'amour de Dieu n'est pas effectif dans la vie de tous les hommes. Ça va, c'est clair? Un exemple, et puis on conclura par cet exemple, c'est l'exemple de Jonas. Dieu va vouloir punir la ville de Ninive. Est-ce que vous vous rappelez cette histoire? On a une ville, Ninive, avec des habitants qui font n'importe quoi, et Dieu va vouloir punir la ville, voilà, elle a passé par le feu, alors on ne sait pas précisément ce que Dieu veut vouloir faire, mais en tout cas, voilà, c'est la fin de la ville, hein. C'est un peu ce qu'il va dire à Jonas, et il va envoyer le prophète, Jonas, pour qu'il change de vie. Alors voilà, je vous passe les détails avec le poisson, voilà, Jonas ne voudra pas, mais il y a un moment, Jonas va dire aux habitants de revenir à Dieu, et c'est ce qu'ils vont faire. Les habitants de Ninive vont revenir à Dieu. Et il dit ceci du coup dans Jonas 3. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur voie mauvaise. Alors Dieu renonça au mal qu'il avait parlé de leur faire. Il ne le fit pas. Ici, Dieu n'a pas changé. Et parce que les hommes se sont repentis, c'est sa miséricorde qui parle. Cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha. Il pria le Seigneur en disant « S'il te plaît, Seigneur, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est pourquoi j'ai préféré fuir à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu clément et compatissant, patient, grand par ta fidélité et qui renonce au mal. » Jonas, ici, il aurait voulu du sang. Lui, voilà, il voulait qu'il paye. Mais il savait que Dieu ne change pas. Et que si ce peuple se repentait, eh ben, il y avait la clémence de Dieu qui était derrière. Jonas le sait très bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va fuir. Alors, il a un problème, hein, Jonas. Parce que du coup, il aime pas beaucoup ses habitants de Ninive. Mais il proclame quelque chose de vrai. Dieu ne change pas et il est clément, miséricordieux envers ceux qui changent de vie. Alors, dans la suite du passage, c'est intéressant parce que Jonas va manquer de compassion. On le voit avec les habitants de cette ville. Et il va rappeler finalement que voilà, Dieu ne change pas. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va bouder. Alors c'est marrant pour un prophète, il va bouder sous le soleil en regardant la ville quelque part et en espérant peut-être que Dieu d'ailleurs la brûle, c'est ce qu'il est dit dans le passage. Et Dieu, avec beaucoup d'humour, va faire pousser une plante pour lui faire de l'ombre. Et Jonas va être content. Il a de l'ombre. Et dans la nuit qui suit, Dieu va tuer la plante en question. Et du coup, Jonas va se retrouver le lendemain matin sous le soleil. Et Jonas va être tellement en colère, alors voilà, je pense qu'il est un peu bipolaire cet homme, il va dire « Prends-moi la vie !» Juste parce qu'il a plus d'ombre, vous imaginez un peu. Il est un peu sensible celui-là, hein, mais bon, c'est autre chose. Donc, et le Seigneur, du coup, avec beaucoup de pédagogie, va lui répondre ceci. Donc c'est la suite, je crois que je l'ai mis. « Alors le Seigneur reprit, écoute, cette plante ne t'a donné aucun travail, ce n'est pas toi qui l'a fait pousser. » Elle a grandi en une nuit et elle a disparu la nuit suivante. Pourtant, tu as eu pitié de cette plante. Et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, la grande ville où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer le bien du mal ainsi qu'un grand nombre d'animaux. Dieu est un Dieu compatissant. Il ne change pas, même avec Jonas, qui n'a pas compris qu'en étant avalé par un poisson, il fallait qu'il change. Il n'a pas compris encore, mais Dieu est patient. Il joue avec lui un peu, pour que Jonas comprenne qu'il est un Dieu patient, pas qu'avec les habitants de Ninive, y compris avec son prophète. Dieu n'a pas changé d'avis dans cette histoire, sa colère repose sur les hommes pécheurs qui le rejettent, mais ceux qui changent d'attitude, c'est sa grâce qui demeure. C'est de ce Dieu-là dont on parle quand il dit qu'il ne change pas. C'est sa nature même, et cette nature, elle ne change pas. Elle s'adapte au fil des relations avec nous, êtres humains, nous qui changeons, et nous pouvons nous appuyer sur lui. Si nous avions un Dieu qui ne change pas et qui était immobile, Dieu aurait détruit les habitants de Ninive, malgré leur repentance. Il aurait détruit le peuple d'Israël, malgré la prière de Moïse. Il aurait détruit les êtres humains, malgré qu'il y ait Noé. Et on aurait eu, du coup, un Dieu cruel, froid, dur, statique. Mais nous avons un Dieu qui ne change pas, mais qui est bien vivant. Et qui, en fonction du coup de ce que nous faisons de lui, et ben lui ne change pas, mais du coup, il nous attire à lui. Par sa colère ou par sa miséricorde. Alors pour conclure, nous sommes instables et changeants, mais nous avons un Dieu qui est stable et immuable, qui ne change pas. Il ne change pas dans son amour, dans sa patience, dans sa miséricorde, ainsi que sa colère et son envie que tous reviennent à lui. Ça ne change pas. Son immuabilité comprend sa colère qui repose sur tous les hommes qui rejettent son amour, ainsi qu'il reste immuable dans sa grâce envers ceux qui se repentent. Et nous, chrétiens, ce matin, face à ce Dieu qui ne change pas, est-ce que nous comptons sur le rocher des siècles et son amour immuable, ou est-ce que nous sommes sous sa colère, qui elle aussi ne change pas? Courbons nos têtes, que nous puissions nous remettre devant le Seigneur et faire le point sur notre vie. Face à ce Dieu qui ne change pas finalement, est-ce que nous mettons nos vies en règle?